Bonjour à toutes et à tous qui venez d'allumer votre radio, que vous soyez confortablement assis chez vous ou en voiture. J'espère que, comme d'habitude, vous apprécierez cette émission sur les traces du mythe grec, où nous allons aborder certains aspects de la mythologie. Je serai, comme d'habitude, votre présentateur, Marvin, 19 ans, et toujours passionné par la période de l'Antiquité grecque. J'espère bien, encore une fois, vous transmettre cette passion et vous faire partager les histoires et les mythes de ma civilisation favorite. Je ne sais pas si certains d'entre vous auront assisté à l'une des émissions que j'avais enregistrées la saison dernière sur la fondation de la célèbre cité de Thèbes, mais si le mythe que je m'apprête à vous raconter vous plaît, n'hésitez pas à vous rendre sur le site Radio Grand Ciel pour la réécouter en podcast. En effet, cette présente émission est une suite en quelque sorte, même s'il n'est pas nécessaire d'avoir assisté à la précédente. Cette fois-ci, je vous invite à replonger dans la cité de Thèbes, en Béotie, quelques générations après que Cadmos l'ait fondée. Nous verrons d'abord l'épisode mythique, qui relate la vie d'Œdipe, que beaucoup connaissent au moins de nom, en référence au complexe d'Œdipe en psychanalyse. Nous verrons bien si nous aurons le temps aussi d'aborder le récit des mésaventures de ses descendants, victimes de la malédiction portée sur Œdipe, et en particulier celle de ses deux fils, Polynice et Théocle. Et peut-être aurons-nous même le temps de parler de la fameuse Antigone. Mais je ne suis pas sûr. On verra. Pour commencer, il faut nous replonger en des temps fort anciens. Laios, un descendant de Cadmos qui fonda Thèbes, régnait sur la cité, avec sa femme Jocaste. Cette dernière était très réputée pour sa beauté et sa splendeur. La vie était prospère, la cité florissante. Une seule ombre venait cependant entacher ce formidable portrait. Laios et Jocaste ne parvenaient pas à avoir un enfant, pour perpétuer la dynastie familiale. Il n'avait aucun descendant à qui il pourrait léguer le pouvoir lorsqu'il ne serait plus à même de gouverner. Et c'était une question assez importante dans les mentalités de l'époque, parce que transmettre le pouvoir à sa progéniture, c'était un petit peu le fondement dans les familles royales. Le couple commence donc à tomber dans l'inquiétude et l'angoisse de ne pas réussir à avoir d'héritier. Et il décide finalement de se rendre jusqu'à Delphes pour consulter l'oracle. J'en profite pour cette petite digression pour vous expliquer comment fonctionne cet oracle, justement, qui était si central dans les différents mythes. Dans le sanctuaire de Delphes, dédié à Apollon, un ensemble de prêtres s'était installé et y avait déployé une sorte de rituel élaboré, basé autour d'une femme capable de révéler l'avenir en délivrant des prophéties. Cette femme était appelée la Pythie, en référence à Apollon, qui porte le nom de Pythos également, depuis qu'il a tué le serpent Python pour venger sa mère.
Call me stone.
Pour en revenir à Laios, il se rendit donc auprès de l'oracle et reçoit une réponse à laquelle il était loin de s'attendre. Effectivement, la Pythie s'est exprimée en ces quelques mots, très simple et assez perturbant. « Tu auras un fils d'ici peu, mais prends garde, car ce dernier causera ta mort et épousera ta propre femme. » Laios tombe des nues face à une telle révélation qui a tout pour briser toutes ses attentes, d'autant plus que les prédictions de l'oracle se révèlent toujours vraies. Il s'agit de la volonté des dieux, qui utilisent les humains comme des marionnettes, des victimes du Fatum, cette destinée cruelle. Selon certaines sources, ce sera Apollon en personne qui s'incarna dans l'oracle et formula cette prophétie en tant que punition des agissements de Laios, puisqu'en effet, quelques années auparavant, il aurait été chassé de Thèbes par le couple formé par Amphion et Zétos, et il aurait enlevé Chrysippe, le fils du protecteur chez qui il avait trouvé refuge et hospitalité, une notion capitale chez les anciens Grecs. Effectivement, tout le monde se devait d'accorder l'hospitalité à qui en avait besoin, et selon un ensemble de règles, assez complexes même. Ainsi, dans l'Odyssée d'Homère, le jeune fils du héros aux mille ruses, Ulysse, accorde l'hospitalité à un vieillard, qui était en réalité la déesse Athéna déguisée, en lui disant ces mots. « Restaure-toi d'abord, tu m'expliqueras les raisons de ta présence ici, quand tu seras reposé et repu. » On comprend bel et bien que cette notion d'hospitalité, si elle est transgressée, va à l'encontre de tout un pan culturel et va revêtir l'importance d'une faute grave, d'où une telle sentence de la part d'Apollon. Ainsi, dès la naissance de leur premier et unique enfant, Laios et Jocaste doivent se résigner à le confier à un berger. L'enfant est traité de façon inhumaine même. Laios lui transperce les chevilles avant de faire passer une corde et pouvoir le pendre par les pieds. Ce qui vaudra à ce jeune garçon le nom d'Oedipe, justement, qui signifie littéralement « celui aux pieds enflés ». Le berger était censé mener l'enfant sur les flancs du mont Citéron, une montagne voisine de la cité, afin qu'il finisse dévoré par des bêtes sauvages. Au final, l'enfant éliminé, la prophétie n'aurait pas pu se réaliser. Mais tout ne se déroulera pas comme prévu, loin de là. Ou plutôt, si, puisque l'oracle se réalisera malgré toutes les précautions qui pourront être prises par Jocaste et Laios. C'est vrai que c'est le problème avec les oracles. C'est justement en voulant éviter qu'ils ne se réalisent qu'on va les provoquer de façon plus ou moins directe. Je m'explique. Laios et Jocaste sont contraints de condamner à mort leur enfant. Mais le berger croisera en chemin la route des hommes du roi de Corinthe, un homme prénommé Polybe, qui ne parvenait pas non plus à avoir d'enfant. Le berger estime mieux de leur confier l'enfant pour qu'il puisse vivre et avoir une chance. C'est de cette façon qu'Oedipe est élevé avec amour et dans la prospérité par ses beaux-parents, les souverains du royaume de Corinthe, voisin celui de Thèbes. Oedipe grandit, c'est un jeune garçon heureux, jusqu'au jour où il se fâche avec un de ses camarades qui lui laisse sous-entendre qu'il ne serait pas le fils légitime de Polybe et de son épouse. À partir de ce moment-là, vous imaginez bien, le pauvre garçon voit son univers vaciller, des doutes l'assaillent, il a besoin de réponses. Au lieu de rester dans le flou et de souffrir ainsi, il essaie de se rendre auprès de ceux qui l'ont élevé pour leur demander des réponses. Mais ces derniers lui disent qu'il est bien leur fils. Cependant, et à juste titre, le jeune prince corinthien n'est pas convaincu. Le doute qui est né en lui ne cesse de l'attiser de l'intérieur et de le consumer. Le doute est vicieux, le doute est destructeur. On ne peut pas rester comme ça, à se demander si ce qui fonde notre identité est réellement avéré. Sans réponse, c'est comme ne plus savoir qui l'on est vraiment. Surtout que lorsqu'il a demandé des réponses à ceux qu'il avait toujours considérés comme ses parents, il avait cru déceler une certaine forme d'inquiétude, voire une gêne dans leur regard. Oedipe est donc perturbé, il va se résoudre à un dernier recours pour y voir plus clair. Il décide de se rendre lui aussi à l'oracle de Delphes pour savoir quoi faire. C'est vraiment impressionnant de voir que Delphes est le lieu où l'on se rend lorsque l'on se pose quelques questions existentielles. Après donc cette petite quête, il parvient à Delphes et l'oracle lui révèle une prophétie du même acabit que celle qu'elle avait livrée à Laios des années auparavant. « Tu tueras ton père et tu épouseras ta mère. » Là, il y a vraiment de quoi perturber le jeune Oedipe, qui prend la décision radicale de s'exiler, pour protéger ceux qu'il croit être ses vrais parents au fond, ceux qu'ils sont d'une certaine façon, mais pas au sens que la prophétie l'entend. Notons qu'il aborde l'idée de tuer Polybe ou d'épouser sa mère Périboéa. Il va à tout prix les protéger, et de cette décision, il va en réalité précipiter la prophétie, puisqu'il se rend vers la ville la plus proche, qui se révèle être, comme par un grand hasard, la cité de Thèbes. En route, il croise le chemin d'un homme, qui est en réalité Laios. Cependant, ce dernier croit Oedipe mort, et Oedipe croit son père à Corinthe, supposant qu'il s'agit bel et bien de Polybe. Les deux hommes se croisent donc sur une route, au niveau d'un carrefour, qui est assez étroit d'ailleurs, et ne permet pas aux deux de passer en même temps. Et c'est là que l'orgueil de chacun ne va rien arranger, alors qu'Oedipe s'estime le droit de passer le premier, étant prince de Corinthe, Ios, en tant que roi de Thèbes, s'estime le même privilège. Ios demande, de fait, d'un ton un peu trop impérieux à Œdipe de s'écarter, mais c'était sans compter sur le sang vif du jeune homme. Il va s'en suivre un duel, et Œdipe, emporté par la violence de l'action, va finir par tuer Laios, son père biologique, réalisant une partie de la prophétie sans même le savoir, ni même le vouloir. Se croyant en position de légitime défense face à un inconnu, Œdipe, qui ne se doute toujours de rien, va poursuivre son chemin vers Thèbes. Il ne repensera pas à cet accident avant de nombreuses années. On dit aussi qu'emporté par la colère, Œdipe aurait tué tous les hommes qui accompagnaient le roi, excepté un qui aurait réussi par chance à s'enfuir à temps. Pendant ce temps, on apprend dans la cité de Thèbes la mort de Laios, et on place Créon, son frère, au pouvoir. À cette occasion, un fléau s'abat sur la ville, l'arrivée de la Sphinx, un monstre mythologique qui possédait une tête de femme, un corps de lion et des ailes d'aigle ou de vautour. Cette Sphinx pose une énigme à chaque personne désirant entrer dans la cité, voyageur comme marchand, et s'il échoue, elle le dévore vivant, sans qu'il puisse s'échapper, sans qu'il ait le temps de dire un mot ou de crier. La cité plonge dans l'autarcie. C'est une véritable crise pour Thèbes, qui ne peut plus communiquer avec l'extérieur ni se réapprovisionner. C'est un peu le premier embargo économique de l'histoire. Le jour où Œdipe arrive enfin devant les portes de la cité, il croise le chemin de la Sphinx, qui lui pose comme à tous la fameuse énigme qui suit. Le matin, je me déplace à quatre pattes, à deux le midi, et le soir, je me tiens sur trois pattes, sachant que plus j'ai de pattes et plus je suis faible. Qui suis-je ? Je suis sûr que vous l'avez déjà entendu quelque part. Sinon, est-ce que vous trouverez la réponse ? Je vous retrouve dans quelques instants, juste après une courte pause musicale. Réfléchissez bien.
Δοσμένος είναι ο ίδιος, αλλά πέραντο.
Oh, Questa Puglia vos menos sino ilios alla perandos alla και μου έφταναν εύκολα όλα έως την απαλάμη έπεσα και μου έφταναν εύκολα όλα έως την απαλάμη.
Le matin, je me déplace à quatre pattes, à deux le midi, et le soir, je me tiens sur trois pattes, sachant que plus j'ai de pattes, et plus je suis faible. Qui suis-je? Voici l'énigme de la Sphinx. Et à ses futés ingénieux, Oedipe comprend que c'est une métaphore de la vie humaine, rien que ça. C'est en effet l'homme qui, enfant, se déplace à genoux et gambade à quatre pattes, adulte, il se tient debout sur ses deux jambes, et en fin de vie, il a besoin d'une canne pour avancer, pour soutenir le poids de ses années. La Sphinx, vaincue à son propre jeu, se jette alors d'un rocher et s'écrasera au sol, mettant fin à cette autarcie de la cité. Je suis sûr que vous aviez trouvé. Bon, quoi qu'il en soit, la ville entre alors dans une véritable effervescence, elle est libérée du joug de l'affreuse créature qui l'a terrorisée. Oedipe est acclamé par le peuple comme leur sauveur, et il va recevoir une audience privée avec le roi Créon, qui, pour le remercier de sa prouesse, va lui offrir la main de la veuve Jocaste. Et c'est là que la prophétie s'accomplit véritablement. Jocaste est la mère biologique d'Oedipe. Ce que la Pythie avait professé est en train d'arriver. Oedipe commet en quelques jours ce parricide et cet inceste. Pourtant, la vie retrouve un calme apparent. Les 20 années qui suivirent virent naître 4 enfants dans la prospérité. 2 garçons, Éthéocle et Polynice, et 2 filles, Ismène et Antigone. Ces derniers sont nés sous le poids de l'inceste et d'une malédiction, celle des Labdacides qui les conduira à leur perte. Mais nous ne sommes pas encore à raconter leurs aventures. Pour l'instant, tout se passe bien du côté d'Oedipe, bien et sans souci. Et ce jusqu'au jour où un second fléau va s'abattre sur la cité. Une épidémie innommable. Plus aucune naissance ne se passe bien. Les enfants naissent sans qu'on le sache pourquoi, mort-nés ou monstrueux, totalement déformés et presque inhumains. C'est un peu comme si les dieux, qui longtemps avaient rendu le règne d'Oedipe prospère, se rendaient compte tout à coup, comme pris de mauvaise foi, que ce dernier était un meurtrier, et pas n'importe quel meurtrier, celui de son propre père. Ce qui, dans une société patriarcale, est d'autant plus grave et lourd de conséquences. De même, ils se rendent compte de l'inceste, cet interdit moral universel, présent de façon plus ou moins apparente dans toutes les civilisations humaines. En réalité, on peut comprendre cette partie du mythe comme une image de la dégénérescence génétique ou des maladies congénitales qui peuvent survenir à la suite d'une union consanguine. C'est une métaphore pour choquer les esprits de ceux qui entendront le récit et marquer l'interdit du mariage consanguin, et en particulier celui de l'inceste, partagé par Oedipe et Jocaste. Ce mythe revêt alors une certaine fonction sociale et éducatrice, voire presque stigmatisante. Il s'agit de montrer ce que les dieux réservent à ceux qui oseraient une telle pratique. En soi, c'est un avertissement. Cette épidémie sera aussi assimilée par d'autres auteurs à une forme d'épidémie pestilentielle. Et pour en revenir au fil de l'histoire, Œdipe, en tant que bon roi, va essayer de trouver une solution à toute cette situation qui ne peut plus perdurer. Il décide donc d'envoyer un serviteur consulter l'oracle de Delphes, encore et toujours, pour savoir quoi faire. Et la réponse est pour une fois assez claire. Il faut assassiner l'assassin de Laios pour que la prophétie et la paix réinvestissent la cité, puisque tant que le meurtre ne sera pas vengé, la maladie ravagera sans relâche la cité. Œdipe, qui ne se doute absolument pas qu'il est l'auteur de la mort de Laios, va entreprendre d'envoyer ses hommes et des mercenaires à travers tout le pays au plus vite. Ces derniers ont une idée géniale, celle de consulter le devin Tirésias, qui va apparaître ultérieurement dans l'Odyssée lorsqu'ils se rend aux enfers, pour lui poser quelques questions sur la manière de rentrer en son Ithaque natal. Tirésias est un voyant d'une certaine façon, il est lui aussi capable de donner l'avenir. Cependant, il va refuser de dévoiler la vérité aux hommes de main d'Œdipe. Ce dernier va donc être obligé de se rendre auprès de Tirésias en personne. Et là, l'aveu du devin est un coup de poignard pour le jeune homme, lorsqu'il lui révèle à travers un ensemble de feintes, de sous-entendus, qu'il est lié à la mort de Laios. Personne ne croit les révélations du devin, et Jocaste va même aller jusqu'à prendre la défense d'Œdipe, de même que tout le peuple thébain, qui le considère comme un roi juste et noble. Néanmoins, les détails d'une route, où deux chars se seraient croisés, eh bien, ce souvenir va évoquer quelques réminiscences dans l'esprit du roi, qui doute de lui-même. 20 ans après, il hésite, il ne se rappelle plus tellement des détails. Et surtout pour lui, tout cela est inconcevable, ça dépasse l'entendement. En soi, il va nier la vérité, il nie tout ce qu'il a devant les yeux. Il sait, mais il refuse d'y croire, il ne le peut pas. En tout cas pour un temps. Car peu après, un voyageur, qui va se révéler être le seul survivant du carnage qui avait vu Œdipe tuer son propre père Laios, celui que je vous avais dit, qui avait réussi à s'enfuir juste à temps, et bien celui-là, même, il va arriver à Thèbes. Il va annoncer que Polybe, le roi de Corinthe, est mort. Et face au chagrin d'Œdipe, ce même voyageur tente de le rassurer en lui racontant qu'il n'est pas son fils légitime et que Polybe n'est par conséquent pas son vrai père. Le serviteur qui était censé l'emmener sur le mont Cithéron lui avoue qu'il a été recueilli enfant après avoir été abandonné par ses parents. Et là, plus question d'hésiter. Œdipe voit toutes les pièces du puzzle s'assembler. Il a tué son père biologique et celle qui l'a enfanté, eh bien, il l'a épousé. La prophétie s'est révélée exacte. Il est la cause des souffrances de son peuple. C'est lui qui a attiré le courroux des dieux sur Thèbes. Il est véritablement horrifié par cette révélation. Jocaste, elle, décide de se suicider par pendaison. Voyant qu'elle a épousé son propre fils, Œdipe, lui, se saisit des broches de la reine qui se tenait à proximité et il se crève les yeux. Pour ne plus voir ce monde qu'il a tant malmené, ce monde qu'il a tant induit en erreur, il ne veut plus porter le regard sur ce qu'il a pu commettre. Ce châtiment correspond bel et bien au forfait commis. Au fond, celui de n'avoir rien vu, d'avoir été aveugle depuis le début sur tous les événements qui se sont déroulés. Nous allons faire une petite interruption le temps d'un nouvel intermède musical. On se retrouve tout de suite après pour discuter de ce mythe et de ce que va faire Œdipe maintenant que la vérité a éclaté. Et de ce qu'il va advenir de la cité de Thèbes, secouée par tous ces événements, tragiques d'une certaine façon.
Qu'un homme sort, ce Malaka, σκεπάσματα χνουδάτα. Με προσοχή την πλάγια σε αχνάταν, αχνάταν νάταν το κεφάλι, να κούμπας σε τέτοια στήθη, να κούμπας σε τέτοιας φιλενάδας τρυφερής τα στήθη. Να κράταγε για μένα, δύο φορές η νύχτα ετούτη να ήταν χρυσή Αφροδίτη μου. Τέτοια μια μοίρα να μου λάχει εμένα. Κεφάλι να κουμπάς σε τέτοια στήθη, να κουμπάς σε τέτοιας φιλενάδας τρυφερείς τα στήθη.
Oedipe décide de quitter le trône et de s'exiler. Il préfère mener une vie de vagabond. Tout le monde se détourne de lui, horrifié par ce qu'il a commis. Tous, sauf Antigone peut-être, fille loyale jusqu'au bout, qui n'hésite pas à braver l'opinion et qui va respecter son père malgré tout. Elle va lui servir de guide, maintenant qu'il est aveugle. C'est elle qui va le conduire à travers les chemins. Parvenu en Attique, on dit qu'il fut purifié de son crime par le roi Thésée. Cependant, Œdipe va mourir dans le bois des Euménides, à Colone, non loin d'Athènes. Un jour où il va rencontrer les Erins, des créatures démoniaques et infernales, nées du sang de Cronos, et dont le rôle est de punir les crimes familiaux. Finalement, le lieu de sa sépulture deviendra un lieu sacré, aussi étrange que cela puisse paraître, au vu des méfaits de cet homme, qui, bien que, malgré lui, a commis parricide et inceste, et a apporté une malédiction sur toute sa descendance. Enfin, je terminerai par souligner la portée de ce mythe qui donne naissance avec Sigmund Freud au complexe d'Œdipe. En effet, ce complexe veut que le jeune enfant éprouve une répulsion pour le parent du même sexe que lui. Ici Œdipe, qui tue son père, qu'il ne supporte pas, lorsqu'il lui ordonne impérieusement de s'écarter de son chemin. Le jeune enfant désire aussi, de façon charnelle et possessive, le parent du sexe opposé. Ici Jocaste, sa propre mère qu'Œdipe épouse. Et véritablement, on voit le lien et l'héritage que va apporter ce mythe et cette histoire tragique d'Œdipe à travers toute la civilisation occidentale, mythe qui sera repris à de nombreuses reprises, comme avec la célèbre pièce de théâtre Œdipe roi. Et voilà, il est déjà l'heure de nous quitter, je pense, oui, au vu du temps. J'espère que ce mythe vous aura plu. Je vous souhaite une très belle continuation et je vous dis à la prochaine fois sur Radio Grand Ciel pour voir la suite des aventures au prochain épisode. Merci de votre attention et à bientôt !